Radio Okapi.
Les titres de ce journal, au Nord Kivu, deux personnes tuées et plusieurs autres blessées, bilan encore provisoire d'une autre bombe qui est tombée hier vendredi en début de soirée à Mubambiro, au nord-ouest de Goma. Pendant ces temps, les organisations de la société civile locale invitent les autorités à tous les niveaux à améliorer la situation sécuritaire et sociale de la population de cette partie du pays qui se détériore de plus en plus. Dans la Tchopo, l'UNICEF a remis ce vendredi aux autorités locales des ouvrages hygiéniques construits en faveur de déplacés du conflit Mbole-Lengola installés aux alentours de la paroisse Sainte-Marc de Lubunga. C'est dans le cadre de la réponse d'urgence en eau, hygiène et assainissement dans cette communauté déchirée par ces conflits. L'invité de ce journal est Maître Henri Wemboloa, président de l'ONG Alliance pour l'Université des droits fondamentaux. Il résiste à l'initiative du Conseil supérieur de la défense visant à recourir à la peine capitale contre des militaires qui se seraient rendus coupables des trahisons dans la guerre dans l'est du pays. Dans ce journal, il propose des solutions alternatives. Bonjour à tous. Avant le développement de tous ces titres, notez que la CENI prolonge jusqu'au 8 mars la période des dépôts et des traitements des dossiers des candidats sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. La clôture était initialement prévue hier vendredi 1er mars. Dans son communiqué qu'il annonce le même vendredi, la Commission électorale nationale indépendante justifie ses reports par la recherche d'une inclusivité plus large, également par des contraintes d'ordre financier. Elle invite par ailleurs les regroupements, partis politiques et autres candidats indépendants à s'assurer du dépôt réel de leurs formulaires et pièces annexes dûment signées. Et puis, au Parlement, les travaux de la commission spéciale chargée d'élaborer les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement se poursuivent sans relâche au Palais du Peuple. À partir de jeudi, les travaux se déroulent en quatre sous-commissions thématiques. D'après le président de la commission spéciale qui fait le point de l'évolution des travaux, le texte pourra être finalisé ce week-end et déposé au bureau provisoire de l'Assemblée nationale pour une plénière la semaine prochaine. Le député national Jacques Ndjoli est au micro de Michel Kifin d'Angoy.
Nous avons commencé un travail d'abord de maîtrise méthodologique. Nous avons divisé la commission en quatre sous-commissions thématiques. La première sous-commission vérifie les amendements et la conformité des dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Chambre. Il y a une deuxième commission qui s'occupe de la production législative. Il y a une troisième sous-commission qui s'occupe de relations entre le Parlement et les autres institutions. Et la dernière sous-commission qui s'occupe des relations de la diplomatie parlementaire, du statut du député et des agents techniques et des cabinets politiques. Demain, nous allons continuer et nous espérons que à la fin de la journée, nous aurons terminé le travail d'audition des sous-commissions et la mise en commun du texte sera faite le samedi. Et nous espérons que le bureau provisoire recevra le texte finalisé au plus tard ce week-end pour que nous ayons une première plénière sur la question au début de la semaine.
Je le disais au sommaire, au Nord Kivu, deux personnes tuées et plusieurs autres blessées, bilan encore momentané d'une autre bombe qui est tombée en début de soirée hier vendredi à Mubambiro, à l'entrée est de la cité de Sake au nord-ouest de Goma. Les sources locales précisent que l'engin explosé est venu de la crête de la colline Kihuli sous occupation des rebelles. Rappelons que depuis les incidents similaires survenus jeudi dans la cité de Sake, il n'y a toujours pas de réaction de l'armée ni celle de la SADC. Pendant ces temps, les organisations de la société civile, les mouvements citoyens et les groupes de pression du Nord Kivu ont tenu ce vendredi 1er mars 2024 à l'ISC Goma, une conférence axée sur la situation sociale et sécuritaire de la province. Trois principales demandes sont adressées aux autorités tant nationales que provinciales, notamment déclarer les Nord Kivu provinces sinistrées, reconquérir les territoires sous occupation de rebelles du M23 et procéder à l'allègement de ces certaines taxes et impôts qui pèsent sur la population. On écoute Moïse Angui, membre du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha Goma. Il s'exprime au micro de Chris Mukand.
Nous estimons qu'il y a lieu pour les autorités de pouvoir se soucier de la situation très précaire qui se passe ici à l'Est, de pouvoir se préoccuper de cette situation qui se passe ici. Deuxième chose, nous nous inscrivons en faux contre le frais de participation des examens d'État fixé par l'arrêté du gouverneur militaire à 130 000 francs congolais. Nous sommes dans une période très particulière et l'autorité provinciale ne peut pas faire souffrir les enfants jusqu'à ce niveau. Nous l'appelons à pouvoir réduire ces frais. Nous demandons tout de même aux autorités de pouvoir rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République en délogeant les terroristes M23 de toutes les zones et toutes les agglomérations qu'ils occupent depuis jadis. Procéder effectivement à ce que nous appelons l'allègement fiscal, décréter le Nord Kivu comme une province sinistrée en raison du drame humanitaire et sécuritaire que traversent les populations meurtries de l'Est.
Toujours au Nord Kivu, à propos des nouveaux déplacés, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, FICR, vient en aide à la Croix-Rouge de la RDC face à l'afflux des nouveaux déplacés autour de Goma. Pierre Kremer, directeur régional adjoint de la FICR, a visité jeudi ces nouveaux déplacés. Pour lui, l'intensité des besoins nécessite une intervention urgente et coordonnée pour soulager les familles en détresse. Les points avec Rosalie Zawadi.
Autour de Goma, des nouveaux camps de déplacés se sont formés. Marcel Mwamba, président de la Croix-Rouge au Nord Kivu, parle de ce qu'il voit lorsqu'il visite ces déplacés.
Il y a des innocents, des enfants, des femmes, des personnes de troisième âge qui souffrent, qui ont besoin de notre aide. Dès que vous arrivez à la porte des sites ou des camps, vous sentez qu'il y a des gens qui souffrent plus que nous. Il y a la misère.
Pour ces nouveaux déplacés, tout est urgent. Des abris à l'aide alimentaire, en passant par la santé, l'eau, la protection, les besoins sont énormes. Pierre Kremer, directeur régional adjoint de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a visité jeudi ces nouveaux déplacés. Il parle des aspects qui l'ont touché.
On a un paquet, je dirais, de problèmes de santé qui sont réellement importants
et des besoins qui sont devenus, qui se sont multipliés, pour lesquels la réponse aujourd'hui n'est pas encore à la hauteur. On le sait. Et les ressources pour soutenir la réponse ne sont pas encore à la hauteur non plus. C'est-à-dire que nous, de notre côté, on va véritablement essayer, avec d'autres partenaires, de voir dans quelle mesure on peut monter en puissance.
Avec les moyens déjà disponibles, la Croix-Rouge de la RDC est présente aux côtés de ces nouveaux déplacés, explique Marcel Mwamba, président provincial de la Croix-Rouge au Nord Kivu. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, la Fondation Étienne Tshisekedi a remis ce vendredi à Kinshasa un don important de vivres et non-vivres aux militaires blessés des guerres internés à l'hôpital général de référence militaire du camp Kokolo ainsi qu'à leurs dépendants. Pour le directeur général de cette fondation, c'est tout naturel de venir en aide aux vaillants militaires qui se sont sacrifiés sur les lignes des fronts dans le Nord Kivu pour le bien de toute la nation. Haruna Ndarabu lance aussi un appel à d'autres structures de son aux militaires qui luttent pour l'intégrité de notre territoire. On écoute Haruna Ndarabu, directeur général de la Fondation Étienne Tshisekedi, au micro de Richard Junior Kamunga.
La Fondation, il y a quelques mois, avait déjà lancé un projet de réinsertion socio-professionnelle des militaires blessés de guerre, des FRDC et d'autres volontaires engagés pour la défense de la patrie. Et à ce titre, au mois de décembre de l'année 2023, on avait diligenté une mission dans le Nord Kivu. On a été à Goma. Nous sommes allés nous rendre compte de la situation réelle des militaires blessés de guerre qui ne sont autres que des héros vivants qui sont encore en vie, qui se sont engagés à défendre l'intégrité de notre territoire national. Et au-delà de cette visite, la Fondation avait apporté aussi quelque chose. En vivre, tout comme en non-vivre, nous ne sommes pas limités à Goma. Aujourd'hui, nous sommes au centre médical. Ça, c'est central. Ici, à l'hôpital militaire central du camp Kokolo. Par rapport à la demande qui nous avait été adressée, on a apporté des matériels médicaux, des béquilles, des chaises roulantes, des vivres et non-vivres, aussi bien pour les militaires blessés de guerre, tout comme pour leurs dépendants. Pendant les membres de leur famille qui les accompagnent. La Fondation ne va pas se limiter à ces gestes parce que nous avons dit que le projet est de les accompagner à redevenir encore utile aussi bien pour eux-mêmes.
Dans la province de la Tchopo, l'UNICEF apporte une réponse d'urgence en eau, hygiène et assainissement en faveur des déplacés du conflit Mbolé-Lengola installé aux alentours de la paroisse Sainte-Marthe de Lubunga. Cet organisme onusien a procédé ce vendredi à la remise aux autorités locales à travers la division provinciale des affaires humanitaires des ouvrages construits dans le cadre de ces projets par les programmes de promotion des soins de santé primaire PPSSP. La cérémonie officielle a eu pour cadre la concession de l'hôpital de la SNCC à la rive gauche du fleuve Congo en présence des autorités locales ainsi que des bénéficiaires. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Les ouvrages remis ce jour ont coûté plus de 50 000 dollars américains. Le PPSSP a donc réhabilité notamment un réservoir d'eau et son circuit d'approvisionnement. Il a également construit des blocs de latrine, a installé 4 stations de lavage de mains et a creusé 2 trous à ordures. Pour le chef de bureau intérimaire de l'UNICEF Kisangani, Oline Baganda, cette dotation est une contribution de l'UNICEF aux énormes besoins des déplacés.
Notre modeste contribution ne pourra certes pas répondre aux énormes besoins des familles déplacées, des élèves déplacés, des enseignants ainsi que de la communauté d'accueil. Cependant, nous espérons que notre modeste contribution pourra contribuer à l'amélioration à l'accès à l'eau potable, à l'hygiène, à l'assainissement.
Outre les élèves du complexe scolaire Lualaba et la communauté locale, plus de 1180 ménages vivant dans ce site sont bénéficiaires de ces ouvrages, a révélé le chef de division des affaires humanitaires. Antoine Lokangila leur recommande un usage responsable.
L'ouvrage étant remis, pour ne pas vous demander une gestion orthodoxe, mais nous en espérons un usage à bon père de la famille pour en assurer la pérennisation.
Tout en remerciant l'UNICEF pour ses ouvrages, les déplacés ont posé d'autres problèmes que ce dernier a promis de transmettre à sa hiérarchie. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, lancement officiel hier vendredi du projet d'anticipation et réponse aux inondations fluviales à Kindu. Ce projet de 3 mois, soit du 17 février au 19 mai, sera exécuté par Caritas Développement Kindu en partenariat avec CAFOD dans les 7 quartiers à haut risque de cette ville avec une enveloppe estimée à plus d'un million de dollars américains. On écoute M. l'abbé Stanislas Abeli Milabio, directeur de Caritas Développement Kindu, qui explique ce projet au micro de Florence Kizalunga.
L'objectif visé par ce projet, c'est de mobiliser la communauté à avoir des capacités à faire face à cette catastrophe naturelle, mais aussi réduire l'impact de ces catastrophes sur la vie des populations affectées. Nous avons observé dans la ville de Kindu, depuis les années 2015, c'est chaque année où l'inondation prend une grande ampleur, comme cette année. Mais également, il y a des gens qui sont dans des endroits à haut risque. Chaque fois qu'il y a augmenté ou monté d'eau, ces gens-là sont affectés. Alors, à quoi nous attendons? Non seulement porter réponse, réduire la vulnérabilité de ce ménage, mais nous attendons aussi l'appropriation d'abord du projet par l'autorité provinciale et locale, prendre des mesures idoines et durables par rapport à ces endroits le plus affecté, du genre de déguerpir ces gens-là et leur trouver des endroits, et affecter ces endroits peut-être pour la culture de maraîchère. Les services étatiques doivent aussi éviter d'exposer les communautés. Ils doivent s'interdire à ne lotir ces espaces-là inondables à haut risque.
Autre nouvelle, le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention lance du 29 février au 3 mars 2024 une campagne de dénombrement de la population quinoise en prélude des activités de vaccination. Cette campagne de dénombrement sera menée par des relais communautaires selon la stratégie porte-à-porte. Je vous propose d'écouter à ce sujet l'appel lancé aux parents quinois par le docteur Elisabeth Mukamba, coordinatrice du comité des opérations d'urgence polio au programme élargi des vaccinations PEV. Elle est au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et ses partenaires vont organiser une activité qui consiste au dénombrement de la population pour les activités de vaccination. Et pour ce faire, les relais communautaires vont passer de maison à maison, de ménage en ménage, dans tous les lieux où se trouvent les communautés, pour enregistrer toutes les personnes qui y vivent. Et nous demandons à toute la population de pouvoir réserver un accueil chaleureux et de collaborer avec ces agents de santé qui vont passer pour leur permettre d'accomplir leurs tâches et contribuer ainsi au bien-être de la communauté. Cette activité est prévue se dérouler du 29 février au 3 mars. Mais selon que les agents de santé vont effectuer leurs tâches sur le terrain, c'est fort possible qu'elles puissent prolonger l'activité de 1 ou 2 jours.
Et puis, les rassemblements des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, dénoncent ce qu'ils qualifient de mauvaise foi pure et simple de la justice congolaise qui maintient volontairement les journalistes Stanny Boudjakera en prison sans aucune preuve d'accusation fondée. Dans une déclaration faite ce vendredi 1er mars ici à Kinshasa, Edmond Izouba, porte-parole de cette ONG de défense des droits des journalistes, dit prendre acte de la bonne foi du président de la République qui a reconnu l'état de la justice congolaise et qui jusque-là s'est gardé d'agir en tant que magistrat suprême. Edmond Izouba le dit à Paul Matendo.
Bien avant la conclusion des enquêtes judiciaires, le chef de l'État a reconnu, comme les RAJEC, que la justice congolaise est malade, illustrant son argumentaire sur les cas du journaliste Stanny Boudjakera. Eu égard à ce qui précède, nous, membres du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, dénonçons la mauvaise foi pure et simple de la justice qui maintient volontairement le journaliste Stanny Boudjakera en prison sans aucune preuve d'accusation fondée. Prenons acte de la bonne foi du chef de l'État qui a reconnu l'état de notre justice et s'est jusqu'ici délibérément gardé d'agir en magistrat suprême. Encourageons Stanny Boudjakera de garder toujours haut son moral et de laisser son sort entre les mains de la justice divine.
Actualité internationale.
Au Tchad, la mort de Yaya Dillo sème les troubles et l'inquiétude dans un contexte préélectoral. L'opposant a été tué mercredi 28 février lors de l'assaut donné par l'armée contre les sièges de son parti. Si les Ndjaménois vaquent de nouveau à leurs activités, une profonde inquiétude persiste jusqu'au sein des cercles de pouvoir et chacun s'interroge sur les possibles conséquences sécuritaires et politiques de la mort de l'opposant à 10 semaines de l'élection présidentielle.
L'invité.
Non à l'exécution de la peine capitale, quelle que soit la faute commise, c'est la réaction de Maître Henri Wemboloa, avocat et président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Il réagit ainsi à l'initiative du Conseil supérieur de la défense visant à recourir à cette peine contre des militaires qui se seraient rendus coupables de trahison dans la guerre dans l'est du pays. Maître Wemboloa propose des solutions alternatives dans cet entretien avec Babel Mpongo Massimango.
Maître Henri Wemboloa, bonjour.
Bonjour Madame Babel.
Le Conseil supérieur de la défense souhaite le rétablissement de la peine de mort en République démocratique du Congo pour des militaires qui se rendraient coupables de trahison dans la guerre dans l'est du pays. Comment vous réagissez à cette initiative?
Il faut d'abord saluer le travail du Conseil supérieur de la défense, de constater et de mettre, n'est-ce pas, à jour au grand public l'existence de beaucoup de traîtres dans l'armée. Nous conseillerons que d'autres études soient menées pour avoir plus de détails et de précisions s'agissant des motifs à la base de cette traîtrise. Quant à la mesure de lever de moratoire sur l'exécution de la peine de mort, nous disons que c'est aller trop vite en besogne et nous ne sommes pas vraiment d'accord avec cette opinion.
Pourquoi vous pensez que la peine capitale ne doit pas s'appliquer en RDC alors qu'elle figure dans le code pénal congolais?
Madame, il y a à dire à ce propos, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la peine de mort figure, n'est-ce pas, parmi les peines prévues par la législation. Aujourd'hui, nous avons une situation qui nous amène vers l'abolition de la peine de mort. Parce que dans notre constitution, prenez article 16, article 61, où on parle de la vie qui est sacrée, on a dit qu'on ne peut en aucune circonstance, même s'il y a état de siège, toucher à certains principes fondamentaux et certains droits comme la vie. Et donc, là, nous sommes vers une abolition. Deuxièmement, nous pensons que c'est très important. Nous ne voulons pas de la guerre, nous ne voulons pas de la traîtrise et nous avons de la compassion pour autant de morts. C'est la situation en RDC, comme tous ceux qui sont à l'extérieur de la RDC, qui ne sont pas d'accord avec des actes de torture, des assassinats qui se commettent à l'occasion de la guerre. dire qu'il faut recourir ou exécuter la peine de mort, là encore nous disons non. Parce que la peine de mort ne donne pas une garantie de sécurité, de manque de traîtrise. À titre d'exemple, je vais vous dire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont reçu des mandats d'arrêt international et qui se retrouveraient à l'extérieur du pays. Ces personnes-là, il n'y a aucun pays qui peut accepter de les extrader vers la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Conformément à la Convention contre la torture, on ne peut pas extrader une personne là où il y a la torture, là où on applique la peine de mort. Et vous verrez, il suffit d'exécuter un seul cas de peine de mort, plusieurs personnes vont quitter encore le pays. Ils vont aller se réfugier ailleurs.
Pour ceux qui prônent le recours à la peine de mort, est-ce que ce ne serait pas un moyen de dissuader d'autres de recourir à ces actes de traîtrise?
Les études qui ont été menées à travers le monde ont démontré que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif.
Oui, et maître, pour le Conseil supérieur de la défense, qui pense qu'il faut châtier fortement avec la peine capitale et les traîtres, disons, qu'est-ce que vous proposeriez alors comme alternative pour punir sévèrement les militaires auteurs de traîtrise?
Punir sévèrement, c'est bien dire. Mais aujourd'hui, en criminologie, il y a un principe. Nous avons besoin de la certitude de la peine plutôt que de la sévérité de la peine. Nous disons qu'il y a des solutions appropriées que l'on peut apporter par rapport à ce problème. Même les sanctions disciplinaires au sein des institutions, elles sont importantes. Par rapport à la question de la guerre, la question de la traîtrise, il y a plusieurs solutions, y compris aussi la justice transitionnelle. Coup de chapeau pour le gouvernement qui a commencé à nous chercher une politique pour la justice transitionnelle. Et dans cette justice transitionnelle, on parle des réformes des services de sécurité. C'est quelque chose d'important. Parce qu'on sait que dans les services de sécurité, nous avons beaucoup de traîtres. Quand on va procéder à la réforme, on va enlever des tomates pourries. Voilà autant de solutions qui existent. Et il faut avoir, n'est-ce pas, la tête froide pour trouver des solutions aux problèmes. Le président de la République parle par moment de la question de la justice. Il y a des erreurs judiciaires. Et on peut encore commettre beaucoup d'erreurs judiciaires. Et là, nous avons salué son action, s'agissant par exemple de l'affaire assassinat de feu Laurent Désiré Kabila. On n'a pas de décision judiciaire palpable. Il a dit non, que tous ceux qui sont arrêtés, qui ont passé de 20 ans, ils sont sortis de prison. Alors qu'ils ont été condamnés à la peine de mort. Et s'ils étaient exécutés?
Merci Maître Henri Wembula d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Pierre Diassinois, sous la supervision et coordination des Noéla Luzituka Bambi. Patience Ngalula Banangue à la présentation. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi.